La grande table d'été fait encore quelques tours de piste avant la rentrée. À 13h30, Kelly Rivière viendra nous parler de An Irish Story, la pièce autobiographique qu'elle interprétera dès le 1er septembre au Théâtre de Belleville. Mais avant cela, partons pour Giverny, sur les terres de Claude Monet. Le musée des impressionnismes nous fait découvrir un autre jardin, le jardin privé et rêvé de Pierre-Xavier Roussel et sa peinture quelque peu oubliée. Moins habillé que ses compères Vuillard et Bonnard, l'œuvre de Roussel fait jaillir peu à peu une mythologie empreinte de nature et d'un érotisme latent, aux confins de laquelle se glisse parfois une grande mélancolie. C'est de cette peinture inclassable et complexe dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie du commissaire de l'exposition Mathias Chivot et du directeur du musée des impressionnismes Cyril Siama. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Cyril Siama, pourquoi accueillir cette exposition au musée des impressionnismes? Pourquoi être venu chercher ce nabi, pas si nabi que ça d'ailleurs, Pierre-Xavier Roussel?
En fait, c'est tout naturel pour le musée des impressionnismes, qui est un musée qui est dévolu à l'impressionnisme et à ses suites. Et les nabis ont été très inspirés par l'impressionnisme. Et donc, le musée a pour vocation à étudier des artistes parfois méconnus et puis aussi à revisiter l'histoire de l'art à travers des grands courants. Et Pierre-Xavier Roussel est un artiste nabi très important qui attendait une rétrospective majeure. Et grâce à Mathias Chivot, on a l'occasion de redécouvrir cet artiste aux multiples facettes. Donc c'est une très belle programmation pour le musée.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Mathias Chivot, peu connu, méconnu, pas assez connu?
Pas assez connu.
Alors pourquoi Pierre-Xavier Roussel a été moins retenu que les leaders, les chefs de file nabis, Vuillard, Bonnard, ceux qu'on...
Je pense que ça vient de la critique déjà dès l'époque, et puis ça vient de lui aussi, du fait qu'il avait pas mal de difficultés à achever ses œuvres. Donc il nous reste quelque chose qui est sur le principe très intéressant, qui sont des œuvres souvent faites avec des techniques fragiles, comme le pastel, ou comme la peinture à la colle. Et puis, lui a un goût très prononcé pour le non-achevé. Et évidemment, jusqu'à maintenant, les yeux se portaient plutôt sur des œuvres un peu fini, un peu contourné, et son beau-frère et meilleur ami, Édouard Vuillard, lui a effectivement excellé dans le genre, et ça l'a effectivement un peu éclipsé.
Pourquoi? Parce qu'il a eu un moins grand succès critique, de par ce côté un peu inclassable?
Je pense, et puis surtout, depuis les années 60, Bonnard est parti en flèche, en partie grâce à la critique américaine qui a vu un des précurseurs du all-over et de l'abstraction des années 60, en partie aussi à cause du succès des petits mystères domestiques de Vuillard. Et effectivement, Roussel, lui, on lui a reproché de continuer à travailler la mythologie, qui est quand même un thème assez érudit, dans une époque où on privilégiait plus un prisme vers l'abstraction. Aujourd'hui, l'œil est différent parce que l'œil est plus photographique. On comprend qu'il y a différentes modernités, que ça ne va pas simplement dans un seul sens. Il n'y a pas d'évolutionnisme en matière d'art. Et on accepte plus ces allers et retours, des avant-gardes aux arrière-gardes. Et Roussel, effectivement, c'est le moment de porter un œil différent sur lui.
Alors porter un œil, ça c'est le début. Peut-être refaire un petit point, et c'était d'ailleurs l'occasion, c'est ce que vous nous racontez, Cyril Siama. Vous dites finalement, c'est aussi l'une des vertus de ce musée que d'accueillir à la fois des courants et des peintres peut-être moins connus. C'est aussi l'occasion de faire un point sur les nabis.
Bah oui, c'est un mouvement pictural très important.
On va reprendre les bases.
Qui est porté par des œuvres magnifiques qui sont souvent conservées au musée d'Orsay à Paris. Très récemment, il y a une exposition sur les décors nabis au musée du Luxembourg. C'est un thème vraiment, vraiment à la mode. Bah, c'est un mouvement qui est né vers 1888 autour de Paul Sérusier et de un petit tableau qui s'appelle le Talisman, qui est devenu une icône de l'histoire de l'art. En fait, Sérusier a pris les leçons de Paul Gauguin et il a décidé d'appliquer des couleurs pures. Rouge vermillon, jaune vif, vert, pour créer un paysage. Et revenu de cette leçon, il a fondé une sorte de groupe d'émules, Nabi qui veut dire en hébreu prophète. Et autour de lui s'est constitué un cénacle d'amis avec Bonnard, Vuillard, Pierre-Xavier Roussel à distance, Mathias le dira très bien.
Il le rejoindra deux ans plus tard.
Exactement, avec... avec beaucoup d'ironie aussi de la part de Roussel. Et puis, il y a des figures charismatiques. C'est vrai que Bonnard et Vuillard vont emporter la mise. Ce sont aussi des promoteurs de leur œuvre de manière assez fantastique. Vuillard, lui, est certainement plus timide, et Bonnard a un charisme qui fait qu'il arrive à vendre ses œuvres. Et Roussel reste un petit peu en marge.
Alors pourtant, Mathias Chivot, Roussel les connaît depuis quasiment l'enfance, puisqu'ils étaient tous au lycée Condorcet ensemble. Ce sont des amis d'enfance, Vuillard, Bonnard.
Presque tous. Il y a un terreau commun qui est le lycée Condorcet, en effet, qui était un peu l'antichambre de la bourgeoisie éclairée à Paris. Puisque les protocoles d'études étaient beaucoup plus libres que Louis le Grand, par exemple, qui était un autre des grands lycées parisiens. Ils sont tous là, ou presque tous. On y trouve en effet Maurice Denis, on y trouve Vuillard, on y trouve Aurélien Luniepo, qui est le dramaturge qui fera travailler les Nabis. C'est un passage très important pour eux, qui les fera accéder au décor du théâtre et qui lancera Vuillard et Roussel, notamment, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur la vertigineuse habileté qu'ils avaient dans le décor rapidement brossé.
Alors on va retracer un peu peut-être le périmètre et justement ce qui peut définir les Nabis en tant que courant, en tant que mouvement. Il y a cette volonté quand même de s'éloigner d'une forme de réalité. Il y a ces aplats que l'on retrouve d'ailleurs dans les peintures du début de Carrousel, de Carl-Xavier Roussel.
Je crois en effet que les Nabis, c'est un groupe très positif, mais ce qui les définit, c'est contre quelque chose, et notamment contre le réalisme, contre le naturalisme en littérature, contre les Parnassiens en poésie.
Contre l'impressionnisme, d'une certaine
manière. Et contre l'impressionnisme, effectivement. Ce sont des admirateurs de Redon qui avaient eu ce mot un peu rosse pour l'impressionnisme. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais pris le bateau de l'impressionnisme parce qu'ils trouvaient ça trop bas de plafond. Et les Nabis, pendant 10 ans de leur aventure Nabis, jusqu'en 1900 à peu près, adhèrent totalement à ça. Chacun viendra après à un post-impressionnisme et reviendra sur les présupposés Nabis. Mais en tout cas, en 1889, quand le groupe se forme, entre juillet et octobre 1888, ils sont effectivement pour la peinture comme une chose mentale, comme disait Léonard de Vinci, une cosa mentale, c'est-à-dire que on doit dépasser la chose représentée, et c'est surtout l'esprit qui doit donner à voir.
Alors c'est vrai que on a en tête ces scènes d'intérieur qu'on va retrouver par la suite, mais il y a ces petits tableaux qui est d'ailleurs celui de la couverture de votre catalogue, Cyril Siama, qui montre justement ces œuvres aussi faites dans la nature, sans perspective et avec un autre rapport à la couleur.
Oui, alors la couverture du catalogue reprend le tableau de Roussel qui est le pêcheur. C'est un drôle de tableau, il est tout petit en fait.
On va le décrire, c'est un pêcheur vu de dos.
Un pêcheur vu de dos, on pense qu'il est nu, mais en fait je pense qu'il a plutôt une tenue de maillot de bain en fait, de l'époque.
Couleur chair. Et
cycliste. À l'Alfred Jarry peut-être.
Assez drôle.
On peut imaginer, ouais.
Très caricatural en fait. Il est face en fait à une sorte de rivière, de mare. Ouais. Il y a une plante sur la gauche qu'on devine, et puis la rive de l'autre côté. Une canne à pêche traverse le tableau. De bas en haut, et c'est très énigmatique, c'est presque une caricature, un schéma fait sur le vif, et c'est vraiment l'image d'une œuvre qui est faite in situ, prise sur le vif, la volonté de retransmettre aussi une émotion. Alors ça, les impressionnistes l'ont fait beaucoup, mais les Nabis vont le faire aussi de manière très simplifiée, avec des formes très rapidement.
Alors, expliquer cette idée de simplification qui est très importante, on va dire synthétisme,
ils jouent sur le cerne, et ça c'est la leçon de Gauguin, donc ils font des cernes et puis ils mettent des aplats de couleurs.
Les cernes, c'est quoi? C'est les contours.
C'est le contour du dessin ou de la. Ça peut être n'importe quelle couleur en fait. Ça délimite en fait une forme et on remplit cette forme d'un aplat de couleurs souvent pur.
Alors les couleurs pures, Mathias Chivot, là quand on pense à ce pêcheur, c'est ses cheveux roux qui apparaissent en contraste avec cette eau devant lui.
C'est la leçon de Gauguin en fait. C'est Gauguin qui, parlant à Sérusier, lui dit de mettre les couleurs les plus pures, celles qui sortent du tube. Et Sérusier sera, avec Maurice Denis, un des penseurs de la doxa Nabis, Roussel l'applique totalement ici, et je rebondis sur ce que disait Cyril Siamin tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a toujours un peu d'ironie chez Roussel. C'est-à-dire qu'il a été nabi, mais il a toujours pris ses distances par rapport à ça. Et là, c'est un tout petit format, hein, Le Pêcheur, c'est tout petit, qui répond parfaitement aux attentes des expérimentations nabi, qui est assez unique en son genre d'ailleurs, qu'on retrouvera pas après. Mais tout est réuni, c'est peut-être une façon de montrer qu'il est capable de faire ça pour ensuite passer à autre chose, parce qu'il a, je pense, dès cette époque-là, autre chose en tête, comme une sorte de proto-histoire, mais qui n'est pas encore advenue et qui viendra plus tard. Mais effectivement,
c'est une première étape en tout cas, ce passage par les Nabis qui arrive, pourquoi 2 ans après, puisqu'il est ami avec tous les fondateurs finalement?
Je pense qu'il a attendu de voir ce que ça donnait, mais Vuillard a été dans la même attitude, hein, avec Bonnard. Faut se souvenir qu'ils faisaient vraiment un attelage à trois. Bonnard, Vuillard, Roussel étaient tout le temps ensemble. D'ailleurs, ils partagent un atelier rue Pigalle ensemble. Alors, il n'existe pas d'œuvre à trois mains, hein, mais chacun travaille de son côté. Cependant, ce sont vraiment des amis qui voyagent ensemble. Ce sont des amis qui vivent ensemble, qui s'écrivent en permanence, tous les jours, on a une correspondance très fournie, et ils ont attendu tous les trois de voir ce que donnaient ces préceptes qui devaient leur paraître un peu exotiques, effectivement, parce que c'est quand même teinté d'ésotérisme, hein, quand on lit pas forcément Maurice Denis, mais quand on lit Serruyer, effectivement, qui revient de Pont-Aven, il y a toujours un petit côté saint-frusquin, ésotérique,
ce nom de Nabi.
Voilà, c'est ça, ouais. Ça a dû les amuser au départ, et puis ils ont vu que c'était fécond. Que ça ouvrait des voies qui leur permettaient de s'exprimer en dehors des académismes. Et je pense que c'est la raison des 2 ans de retard. Enfin, on dit 2 ans, de l'année et demie de retard, des 2 ans de retard qu'ils ont mis. Mais ils se sont toujours gardés de rentrer entièrement dans toutes les formulations. Parce qu'il y avait des formulations ésotériques aussi dans les correspondances. Il y avait tout un protocole, entre guillemets. À côté duquel ils étaient sagement restés.
Alors je vous propose d'écouter Antoine Terrasse qui parle du style Nabi, c'était sur France Culture le 19 décembre 90.
Ce qui les caractérise, c'est par rapport aux impressionnistes, la touche. Les impressionnistes écrivaient en virgules, ces petites virgules, vous savez, ces petites touches qui s'ajoutent les unes aux autres. Et voici que les Nabis, suivant d'ailleurs en cela l'exemple de Gauguin et d'Émile Bernard, les Nabis peignent par des touches plates, de couleurs, des taches de couleurs qui sont cernées, des couleurs très vives, très vives. Jaune, jaune, vert, vert, bleu, bleu et rouge, rouge, sans nuance. Mais il y a aussi cette sorte de nuance qu'apportent les uns et les autres, et à la fois ces couleurs très vives, et puis tout d'un coup, des nuances dans des gris qui sont merveilleuses, chez Bonnard et chez Vuillard notamment. Généralement, les tableaux Nabi sont des tableaux de petite dimension, qui apparaissent un peu à première vue comme le détail d'un grand tableau. C'est parce que les Nabis avaient l'idée d'une composition tout à fait différente. Les impressionnistes, eux, prenaient un spectacle, une cathédrale ou la gare Saint-Lazare, ou un grand paysage, et ils le regardaient dans son ensemble, dans son espace. Et il semble que les Nabis, tout d'un coup, aient fixé leur regard sur le détail de cet espace. Et particulièrement dans les scènes intimes, il regarde un salon, il regarde un coin de table. Et en cela, il s'inspire à la fois des Japonais et de l'instantané photographique. C'est donc une composition tout à fait nouvelle, très différente. Et ils ont beaucoup basé leur art sur une composition nouvelle.
Alors Cyril Siamin, justement pour reprendre alors cette idée effectivement de cerner, mais aussi des tâches. Cette histoire de tâche qui est en fait un élément technique et qui va aussi guider, puisque les préceptes vont évoluer au fur et à mesure du courant. On est au départ aussi dans des jardins, on est en extérieur. C'est une nature aussi qui est représentée avant que ce soit simplement des scènes intérieures.
Exactement. Alors les tâches, c'est important dans l'histoire Nabi, puisque ça permet aussi aux artistes de créer un monde imaginaire, un monde rêvé, puisque c'est notre œil qui focalise et qui crée. En fait, la peinture. Au départ, ce sont des taches de couleurs. Et c'est ce que dit Maurice Denis, hein, sa peinture, c'est...
C'est une tromperie.
C'est une tromperie, c'est des taches de couleurs à un certain ordre assemblé. Donc, c'est aussi une recomposition de l'œil. Donc, en cela, ils sont assez proches des impressionnistes, qui aussi recomposent avec les touches de couleurs. Sauf que les nabis jouent sur les grands aplats de couleurs. Il n'y a pas de mélange de petites pointes de touches. Ce qui est très original, et cela rappelle ce que vient de rappeler Antoine Terrasse, l'art japonais, où ils ont été très influencés. Les impressionnistes, bien évidemment. Van Gogh, Monet, pour ne citer qu'eux. Mais les nabis vont porter ça à un niveau un peu caricatural. Et ce qui est intéressant, quand on voit par exemple les premiers tableaux de Vuillard, notamment, c'est voir le travail sur l'ombre. L'ombre portée, et là, le lien avec l'Uniepo et le théâtre de l'œuvre est important, la Revue Blanche. Ils ont beaucoup vu les scènes de théâtre. Et donc, c'est aussi des scènes de théâtre qui sont mises dans des jardins. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de leur art, il va y avoir quelque chose d'un peu claustrophobique qui va se mettre en place chez Vuillard, notamment. L'intérieur va prendre de plus en plus d'importance. Et cela est ici très lié à leur propre vie. La liaison entre Roussel et Vuillard est très intime. Et les drames intimes de chacun nourrissent leur art. Ça, Mathias Chibault le
connaît. Alors, petit point sur la biographie du peintre. Pierre-Xavier Roussel va aussi prendre la décision de quitter Paris, de mener une vie beaucoup plus rurale. Et ça, ça va complètement modifier sa peinture, Mathias Chibault.
C'est le grand tournant, en fait. C'est effectivement, on dit souvent que c'est à la faveur de la naissance de sa fille, Annette, en novembre 1898, qu'il fait le choix, pour la santé de l'enfant, de quitter Paris. Je pense que c'est un raisonnement beaucoup plus profond, j'allais dire peut-être pas forcément plus égoïste, mais c'est vraiment beaucoup plus atavique. Roussel n'est pas un citadin, à l'inverse de Vuillard. Il est déjà porté dès l'époque nabi par les sous-bois, les bois sacrés, les scènes lacustres, les marais enchantés. Il a donc un appel vers la nature qu'il va enfin pouvoir réaliser. Au moment où naît son premier enfant, il faut savoir que donc sa femme Marie est la sœur de Vuillard, elle a essayé d'avoir deux enfants, il y a eu une fausse couche, il y a eu un enfant mort-né, donc c'est un peu une épiphanie la naissance de la première fille qui s'appelle Annette en 98, et peut-être que c'est pour Roussel le vrai départ de la vie qu'il veut absolument mener. Loin des influences nabis, effectivement, parce que quand il est nabi...
C'est aussi un peu politique, ce départ de Paris. Hein. C'est un éloignement, en tout cas, esthétique.
Esthétique et politique, tout à fait. Je pense que ça correspond à ses idées utopistes sur l'harmonie, le retour à la nature, les méfaits de la cité, qui sont des idées d'aujourd'hui les méfaits de la cité, les méfaits de la révolution industrielle, de l'organisation sociale, de l'entassement, de l'insalubrité. Et Roussel,
il refuse de représenter cette industrialisation. D'ailleurs, peut-être c'est un point qu'on pourrait développer, Cyril Sciamma, contrairement aux peintres de cette fin du 19e qui représentent aussi cette révolution industrielle et ses effets sur la ville notamment. Il refuse de rentrer dans ce genre de représentation-là.
C'est tout à fait exact. Et en fait, il se rapproche en ce sens de Maurice Denis aussi, qui s'éloigne de Paris et qui va habiter à Saint-Germain-en-Laye, où il va créer aussi un propre monde. Et d'ailleurs, les deux vont être à un moment très proches. Ils se fréquentent. Roussel va aller à l'Étang-la-Ville et Denis est à Saint-Germain-en-Laye. Donc, ils se voient quand même régulièrement. Il faut imaginer quand même, à la fin du 19e, ce que ça veut dire d'aller vivre là-bas quand même. On n'a pas les mêmes moyens de communication. Quand on va à Paris, c'est quand même, ça prend du temps. On n'imagine plus du tout cette idée de transport, mais c'est une vraie démarche. Et c'est une démarche qui est certainement un peu forte, un peu philosophique, de la part de Roussel, même de Denis. Et donc, il refuse ce monde industriel, ce monde terre à terre que les impressionnistes ont, eux, justement, tenu à sublimer.
C'est même un rapport au progrès. C'est même un rapport au progrès.
C'est un rapport au progrès. Et en même temps, Roussel, lui, il va se concentré sur la fable, la mythologie, il va lire dans le texte les auteurs anciens, et Denis, lui, il va être absolument fasciné par la religion et par l'Italie. Donc il y a un rapport aussi au progrès qui est, on peut dire, un peu réactionnaire.
C'est-à-dire qu'ils s'extraient du monde, d'ailleurs.
Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas du tout envie de voir ça.
Vous parliez, Mathias Chibault, des figures féminines, de sa femme. Il y a ces tableaux, comme Conversation, par exemple, plusieurs tableaux de cette période-là, qui sont d'assez petits tableaux, qui représentent, on ne sait pas trop, en tout cas des scènes peut-être un peu quotidiennes, qui pourraient représenter sa future femme, Marie, et peut-être sa mère, à elle, parlant à la fenêtre. En tout cas, il y a plusieurs représentations de femmes à divers âges de la vie, ou cette confrontation de la jeunesse et d'un âge plus mûr.
Effectivement, alors ça a trait, je crois que c'est un souci permanent chez Roussel, c'est le temps qui passe. Alors, en effet, il y a des tableaux qui s'appellent Les âges de la vie ou Les deux âges. Il y a toujours une référence à la scansion du temps qui passe. Plus tard, ça prendra la forme, quand il fera des grands panneaux décoratifs pour des commanditaires privés, ça prendra la forme des saisons
qui passent derrière les personnages.
Absolument. Ou le thème, exploité ad libitum de la fontaine de Jouvence. Celui qui boit l'eau de la fontaine de Jouvence reçoit la jeunesse éternelle, et qui boit l'eau dans ses peintures, c'est lui. Ce sont des autoportraits répétés 40, 50 fois.
Une sorte de rapport à la mort comme ça, qui revient à travers sa peinture.
Alors là, c'est un peu comme si c'était des peintures apotropaïques, c'est-à-dire pour repousser le mauvais sort, pour repousser le mauvais œil,
on conjure
par justement la représentation des cycles. Le cycle de la vie, le cycle des saisons, et puis l'utopie de l'éternelle jeunesse.
Alors un rapport assez métaphorique aux personnages, même s'ils sont là, finalement la nature est relativement présente, et c'est peut-être elle qui est au centre du tableau, ou en tout cas qui se mélange. Je pense peut-être on pourrait décrire le repos sous les arbres, Mathias Chivot.
Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Le repos sous les arbres, c'est d'abord une des rares... anecdotique, mais ça a quand même de l'importance. C'est une des rares représentations de Micia Natanson, qui a été la muse de tous ces artistes à un moment donné. On a parlé donc des nabis et du terreau du lycée Fontane, enfin l'ancêtre du lycée Condorcet.
Oui.
Là-bas était aussi Thaddée Natanson, le fondateur de la Rue Blanche, et la Revue Blanche est un autre des terreaux des nabis.
Terreau politique.
Voilà, absolument politique, théâtral. Je pense que c'est aussi ce qui a dessillé les yeux de pas mal des membres du groupe Nabi. Et l'animatrice, la muse, vraiment, à proprement parler, c'était Micia Natanson, qui deviendra Micia Tert plus tard. Et chez Roussel, qui ne fait pas beaucoup de portraits, c'est une des très très rares représentations de Micia.
Alors peut-être décrire un peu ce tableau pour qu'on comprenne ce qui se passe, ce personnage qui se fond dans ce décor-là.
C'est la dissolution du corps. Ça, c'est un des principes Nami, mais ça sera exploité par Roussel jusqu'à la fin. C'est la dissolution des corps dans la nature. Et là, effectivement, on voit une femme à l'anguille sous un arbre, dans un décor qu'on connaît bien d'ailleurs, qui est répété à travers divers pastels. On imagine
celui d'une herbe,
d'une herbe assez
verdoyante,
haute, voilà, avec un petit marais derrière certainement, des arbres en fleurs, des petites fleurs blanches qui parsèment la pelouse. On pense que ce sont l'arrière-pays de Valvin. Et elle apparaît, alors c'est assez bête, c'est un peu un repère de documentaliste, mais effectivement le petit nœud orange qu'elle a sous le menton et sa blouse à rayures, on a des photos faites par Vuillard de Micia, et on a des portraits de Micia par Vuillard qui nous assurent presque à 100% de l'identité du modèle. Et c'est assez tôt, mais on voit déjà que se développe le goût du vert. Et la nature comme un sujet essentiel pour Roussel.
Alors Cyril Siama, on va voir que finalement sa peinture va énormément évoluer dans le temps. Et si Carl Xavier Roussel est connu aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que l'exposition vient corriger cet aspect-là critique, c'est parce que c'est comme décorateur qu'il est essentiellement connu.
Oui, alors il a eu un tournant très important. En effet, quand il est parti en la campagne, et puis ensuite, je crois que ce qui a été une grande souffrance pour lui, c'est la Première Guerre mondiale, où il a été, on ne le dit pas encore dit, mais c'est quand même
il a fait des grandes dépressions.
C'est
quelqu'un
qui est quand même très mélancolique, et il a été plusieurs fois malade. Il a été hospitalisé en Suisse. Ça a été un traumatisme pour la famille, et lui-même. Il a des hauts et des bas, et donc le décor pour lui, je crois, est très important. Ça lui permet d'extérioriser aussi ses angoisses, et puis la volonté de créer un monde rêvé, un monde unique. Et donc là, il va avoir une grande reconnaissance.
Alors dans le domaine de ce qu'on appelle les arts décoratifs appliqués, ce sont les commandes d'État en fait, pour des théâtres.
Alors il y a des commandes d'État, mais il y a beaucoup de commandes privées. Et effectivement, dans les arts décoratifs, c'est pas le dernier. Il a fait ça plutôt avant. Il a fait des céramiques, il a fait des vases, il a fait des assiettes, des vitraux, absolument, avec Siegfried Bing pour le maître verrier américain Louis Comfort Tiffany. Mais là où il excelle, c'est vraiment le grand décor.
Alors là, il y a un changement de format qui s'opère énorme quand on pense au premier tableau Nabi. Voilà. Ça va être la découverte du changement de format.
Voilà.
Qui va s'appliquer à sa peinture.
Il s'expérimente à ça avec des projets de décoration, et ça, on le sait, dès 1893, en juillet 1893, parce que ce sont des archives dans la mairie de Bagnolet.
Pour le théâtre de l'œuvre.
Il s'essaye, en fait, la mairie de Bagnolet lance un concours pour décorer sa salle des fêtes. Les dimensions sont assez gigantesques, en tout cas pour celui qui a l'habitude de travailler des petites icônes, on passe vraiment à une échelle différente. Alors, il ne peut se risquer à faire ça que parce qu'il est passé par les décors du théâtre de l'œuvre. Il est entraîné dans cette aventure par Sérusier et par Vuillard. Il a l'habitude de peindre rapidement à la colle, de couvrir des surfaces de grande dimension. Et c'est la première tentative de décor documentée. Malheureusement, ces projets ne seront pas retenus, mais c'est vraiment ce qui le lance comme décorateur. On en a gardé des maquettes exposées à Giverny, et c'est assez exceptionnel, parce que d'habitude elles ne sont pas prêtées. Et puis, on va, à mesure, à peu près tous les 10 ans, on monte encore en volume et en format pour arriver jusqu'à la fin, où les formats sont à 4,30 m ou 4,40 m de hauteur.
Et c'est à ce moment-là qu'arrive la mythologie, puisque petit à petit, les paysages de la nature vont se teinter de mythologie. Et finalement, il va faire partie de ceux qui vont remettre au goût du jour une certaine culture gréco-romaine.
Tout à fait. Ça arrive assez tôt, en fait.
C'est pas le cas des conversations, c'est pas le cas du pêcheur.
Mais les pêcheurs et les conversations, c'est 1890-1892. Dès 1896, c'est-à-dire au milieu de l'expérimentation Nabi, qui dure à peu près 10 ans, dès 1896, on a retrouvé d'ailleurs pour l'exposition un pastel qui s'appelle Dryade Nymphe des Bois, et on sait que ça s'appelait comme ça déjà à l'époque. Et donc, en référence certainement à Puvis de Chavannes, qu'il admire beaucoup, il y a déjà des nymphes dans les bois, d'une exécution encore un peu contournée, hein, comme le voulait l'art Nabi, mais qui lance déjà les idées de la mythologie débridée qui va prendre forme en 1900, 1901, jusqu'en 44, jusqu'à la fin.
Cyril Siama, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte de cette fin du 19e, début du 20e siècle, du reste des peintres qui l'entourent? C'est encore la période du salon, puis et en face du salon des indépendants. C'est aussi des logiques de galeries qui se mettent en place.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, les Nabi n'ont jamais eu prix de Rome. Ils n'ont pas du tout joué l'académisme et la carrière officielle. Et ce qui m'intéresse, moi, à cette période-là, toujours, c'est la naissance du marché de l'art et de la critique d'art. Et donc, ces artistes-là, ils ont très bien senti la réalité de la société française de l'époque. C'est-à-dire, il y a des grands collectionneurs qui commencent à amasser des œuvres importantes. Et Roussel, comme d'autres, vont aller voir les grands banquiers, les grands financiers, pour demander des commandes.
Alors, ils vont travailler pour des privés, d'ailleurs. Vous avez eu un certain nombre d'œuvres qui sont des œuvres prêter.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont dans la famille encore Roussel, et puis dans les collections privées. Et ça, ils ont très tôt compris ça. Donc c'est tout à fait en phase avec la société française de la fin du 19e siècle, qui est de plus en plus angoissée. Moi, je sens qu'il y a toujours une tension qui monte vers 1898, 1905. Et le marché change également. On commence à faire appel à des artistes qui ont aussi une orientation autre que le symbolisme, qui était aussi très à la mode. Ça s'étouffe un petit peu, ce style-là, et puis on va arriver très vite hein, vers les Fauves et Picasso. Ça aussi, c'est intéressant de voir que Roussel, comme les Nabi, ils ont vu cette peinture-là.
Ouais. En tout cas, ils ont traversé toute cette période.
Et ils la regardent avec...
Ils ont parfois même les mêmes marchands, parce que il est chez Bernheim. Bernheim expose Matisse. Donc ils se connaissent, et puis il connaît bien Matisse, il connaît bien Cocteau, il connaît tout ce monde-là, ne serait-ce que par l'intermédiaire de quelques amis en commun, dont Missia, qui est devenue Missia certes cette fois, mais il n'ignore pas, c'est-à-dire c'est pas non plus un ermite dans la campagne, il a fait le choix de se retirer, mais il suit de loin. Bon, il a ses antennes à Paris, il a Bonnard quand il y est, il y a Vuillard qui est partout, et puis il a ses marchands, mais c'est vraiment un choix de ne pas suivre ça.
Alors, on va écouter Alain Méraud sur France Musique, c'était le 13 décembre 90, et il va nous parler justement de ce culte de l'antique.
Poussin n'a pas voulu de maître immédiat, mais il a choisi, je dirais, ses propres maîtres. Mais il ne les a pas choisis parmi les artistes contemporains, il les a choisis dans le passé, Et vous savez par exemple qu'il a un culte énorme pour l'antique, pour ce que l'on connaissait de l'antiquité à l'époque, et notamment les statues qu'il est allé mesurer avec son ami duquesnois, etc. Donc, je pense que il a une conception de la mythologie qui rejoint celle de la Renaissance et d'une certaine manière aussi celle de l'Antiquité. Il a eu une conception de ce fait moins décoratif peut-être que celle de ses contemporains, dans la mesure où il s'était forcé de revenir un peu aux sources dans ce domaine-là. Chez Poussin, il y a toujours une méditation sur la mythologie. Même dans les œuvres de jeunesse, qui sont des œuvres assez fortes et assez sensuelles, il y a toujours une espèce de détachement, de recul du peintre. Il introduit toujours, par exemple, des dieux fleuves dans ses compositions ou des personnages qui semblent méditer sur l'action mythologique. Et il varie, alors il a tantôt des sujets mythologiques plaisants, comme dans les Bacchanales par exemple, mais il y a aussi bon nombre d'épisodes plus tragiques qui sont évoqués, notamment la mort dans le thème de Vénus et Adonis, et également la résurrection, puisqu'Adonis, vous le savez, a plus ou moins ressuscité. Donc là, il se pose des questions très graves à partir d'un point de départ mythologique.
Cyril Siama, il s'agit là de Poussin, mais bon nombre de thèmes vont être commun avec ceux de Roussel, mais traités bien différemment. C'est l'arrivée des nymphes, des faunes, des satyres dans les tableaux.
Alors Poussin, c'est un peintre du XVIIe siècle, certainement le plus important peintre français de l'époque et qui est exilé à Rome. C'est un peintre extrêmement intellectuel. Il a dit qu'il n'avait rien négligé, donc tous les tableaux de Poussin sont codés. Et c'était vraiment destiné à une élite intellectuelle.
Mais dont faisait partie Roussel, qui était un personnage cultivé, qui lisait la philosophie.
Absolument, oui.
Mais est-ce que son
polyglotte, il le latin,
l'allemand,
le grec. Donc, il a une mémoire de pachyderme aussi, parce qu'il peut réciter des poèmes entiers de Virgile ou de Mallarmé. Et il a intégré toute cette culture, effectivement, très érudite. Ça,
donc
c'est sûr.
Il est aussi un admirateur de Poussin, en tout
un
cas
grand
l'influence
admirateur
existe.
De Poussin et de la mesure classique, oui, tout à fait.
Mais il ne va pas mettre des sujets trop littéraires, c'est-à-dire trop intellectuels non plus. Ah. C'est-à-dire que ça va être des faunes. C'est à nous, en fait, de voir dans sa peinture ce qu'il a voulu y mettre. C'est-à-dire des sujets mythologiques, certes, mais qui sont aussi en phase avec son état d'âme. Il y a beaucoup d'autoportraits de lui, ou même des portraits de sa famille. Donc c'est assez drôle à voir, sur des formats très importants, ce que Poussin ne faisait pas. Et il n'y a pas cette référence latine, je pense, avec la mort. Par exemple, Poussin, c'est obsédé par la mort. Roussel, c'est plus mélancolique. Il y a des tableaux, c'est l'automne et puis les saisons.
Une mort romantique, presque.
Oui.
Quand il la traite directement.
Et quand même, on ne donne pas cher de certains des personnages de tableaux de sa période noire, aux traits, justement, très prononcés, qui sont dans cette alcôve du musée que vous avez dédiée au cabinet d'estampes.
Ah, c'est une découverte de Mathias, ça. Il a trouvé
Mathias, suivez-vous, petit éclair. Éclairage sur cette période noire.
C'est effectivement une découverte. On imaginait bien qu'il y avait quelque chose, parce qu'on connaît les estampes, et c'est un travail qu'il exécute autour de deux fabuleux poèmes en prose, complètement oubliés aujourd'hui, et que j'invite nos auditeurs à relire, parce que c'est formidable, c'est très actuel en plus, très romantique, de Maurice de Guérin, qui, alors personnalité déjà romantique par essence, mort jeune, il fantasme une grécité, même à travers son jardin en France. Il y a ce même phénomène de translation de l'antique dans sa période. Et Roussel, lisant ça, va être frappé et va s'y retrouver, en fait, mais non pas son côté dionysiaque, mais plutôt le versant dramatique, hanté par la mort, la nuit, les drames. Et c'est quelque chose, sa mythologie s'oriente vers ça. Dans les 15 dernières années de sa vie.
Alors, à des périodes très sombres aussi, on retrouve quand même ces deux périodes très noires qui correspondent à celles aussi sombres pour la France, qui traverse aussi ces périodes de guerre. Hein. Ouais. La première dépression, grosse dépression du peintre, c'est 1915.
C'est ça. Alors là,
et
c'est
ensuite,
quelque chose,
c'est les années 30-40.
Voilà, grosse déflagration. Ça, comme disait Cyril tout à l'heure, ça dure 2 ans. Il part en Suisse se faire soigner dans une clinique spécialisée. Il sort quelques œuvres extrêmement noires, effectivement, qui sont des personnifications de la mort ou de la guerre.
Alors peut-être on peut les décrire, hein. Ce sont des traits assez floutés, ou même les personnages mythologiques sont comme absorbés dans une sorte de brume.
Oui, ils sont plongés dans une nuit à l'encre de Chine. C'est vraiment, là, on vire vraiment vers l'abstrait. Et puis, les techniques sont bizarres. C'est des techniques, une fois de plus, éphémères, très fragiles. C'est des encres de Chine sur papier calque. Et on sent que le sujet a dû exciter ses méninges parce qu'il a dû en faire au moins une cinquantaine, une soixantaine. On en expose une petite dizaine. Mais je crois que si on avait, alors j'en ai retrouvé une trentaine, si on arrivait à retrouver la totalité de ça, l'ensemble serait un corpus qui a une signification toute nouvelle pour l'artiste, parce qu'on a été habitué à des chants ensoleillés. Alors c'est les mêmes chants, mais ils sont plongés dans une ambiance, oui, de nuit, de foudre.
Comment est-ce que vous avez pu les retrouver, ces œuvres-là,
ça,
les exposer
de Mathias, et puis on a la chance en fait d'avoir une belle renommée, donc quand on demande une œuvre, on est quand même très aidé, on est très heureux avec ça. Je voulais juste rebondir ce que disait Mathias Chibaud, c'est vrai qu'il y a quand même un rapport avec Odilon Redon et les noirs de Redon qui est très important. Et d'ailleurs, Redon, lui, il va en avoir assez du noir, il va passer à la couleur.
Il a un cheminement inverse.
Alors que Roussel, lui, il fait des œuvres. Je pense que c'est très intime en fait ces œuvres. Elles ne sont pas destinées à être vues et à être montrées. Et puis il a détruit aussi beaucoup.
Oui.
Donc beaucoup d'artistes détruisent. Et donc ça, c'est resté. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas vues.
Alors en dehors de ces périodes très sombres, après 1915 et après cette période noire, il va y avoir ces immenses tableaux. Alors là, c'est la troisième partie de l'exposition. Mathias Chivaud, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de justement cette nature foisonnante et ces faunes qui pointent à droite à gauche avec une sorte d'érotisme latent, des tableaux un peu joyeux, et en même temps on sent que il risque d'y avoir
un drame. Le drame est jamais très loin d'ailleurs. Il n'était pas freudien, en tout cas on n'a aucune preuve de ça, mais c'est vrai que sexe et drame, ou sexe et mort, sont très souvent liés chez Roussel. Et dans cette partie de l'exposition qu'on a appelée « Tout brûle dans leur fauve », qui est une citation de Mallarmé, l'après-midi d'un faune, on a mélangé cette grande nature, qu'elle soit méditerranéenne ou dans les alentours de Paris, avec des nymphes à l'anguille, beaucoup de figures de guetteurs embusqués, c'est-à-dire certaines formes de voyeurisme quand même.
Alors le voyeurisme qui est aussi celui du spectateur, hein, qui absolument se retrouve à regarder côté buisson.
Oui, parce que il s'arrange pour que la ligne d'horizon ou le cadrage du tableau nous mette dans la même position que le faune en train de guetter, ou celui qui va sauter sur sa proie. Et effectivement, on participe de cette logique de la prédation en fait. Et c'est tout l'art un peu tordu de Roussel, mais c'est ce qui fait que ces tableaux sont extrêmement vivants. Et on parlait de Poussin tout à l'heure, la grande différence, c'est que moi je vois Poussin comme un apollinien, et Roussel est un dionysiaque, c'est un nietzschéen partout.
Un nietzschéen dionysiaque, vous allez nous définir un peu ce que vous mettez derrière ça, Mathias Chivaud, ce rapport à l'érotisme, un érotisme un peu violent.
C'est un érotisme violent toujours. Alors lui s'appuie sur son érudition en disant, voilà, c'est dans les fables d'Ovide. Moi, les filles de Leucippe, elles se font bien enlever effectivement par les Castor et Pollux. J'y peux rien, je ne fais que peindre le poème que j'ai lu. Mais on sent effectivement d'abord la répétition. On a à peu près une dizaine de versions de l'enlèvement des filles de Leucippe. On sent bien qu'il y a pris un certain plaisir.
Et dans le choix des thèmes, il s'agit d'enlèvement, de viol.
Oui, toujours.
De beaucoup de scènes de nu. D'ailleurs, Cyril Siama, comment est-ce que ces tableaux ont pu être accueillis au début d'un XXe siècle où la question du nu, même s'il s'agit de nymphes, elles sont quand même extrêmement humaines, ces créatures.
On va dire qu'au début du XXe siècle, quand même, on est de plus en plus libre dans les mœurs. On est moins corseté que sous Napoléon III. Hein. En revanche, c'est vrai que la critique de l'époque va se diviser en deux. C'est-à-dire que certains vont beaucoup apprécier les pastels de Roussel, louant la couleur, la science des couleurs. Et puis les autres, on va dire plutôt la droite conservatrice, hein, on a vu qu'il y a beaucoup d'articles aussi d'extrême droite, d'Action française, ont loué le retour à une pureté d'origine.
Alors ça, c'est un peu l'absurdité. Hein. Il est aimé de chaque côté.
Il y a une ambiguïté sur Roussel.
Une ambiguïté politique ou une ambiguïté de l'interprétation politique?
regard qu'il œuvre. Porte sur lui. Je pense que lui, il n'a pas vraiment choisi son camp. C'est-à-dire qu'il est, entre les nabis et puis le côté un peu classique. Il est très original. Et donc cette originalité-là, soit elle déplaît, soit elle désappointe. C'est-à-dire on est désarçonné.
Mathias Chivot.
Oui, l'esthétique méditerranéenne de ces personnages guettant l'horizon infini contre le golfe de Saint-Tropez, etc. En même temps, les anarchistes utopiques y ont trouvé leur compte, et en même temps, il est salué, c'est le même tableau, le même pastel, est salué par l'Action française, qui, à la suite de Charles Maurras, y voit le retour de l'agricité et des fondements de la culture gréco-latine qu'il faut absolument mettre en avant. Donc, lui est pris entre les deux. Son camp, il est clairement choisi. Lui, c'est un anarchiste, à la suite de gens qu'il a fréquentés et qu'il a choisi d'ailleurs. Hein. On pense à Félix Fénéon, on pense à bien sûr Signac, qui est son ami, Cross aussi. Donc lui, c'est clair. Mais il se fait, comme dit Cyril, récupérer par une forme d'extrême droite de la critique.
Malgré lui.
Malgré lui, qu'il n'a pas choisi.
Alors il faut dire que lui avait vécu, c'est peut-être l'un des objets de cette période très mélancolique, notamment d'avant la Première Guerre, mais aussi la Deuxième. Il est très germanophile. Il est germaniste, oui. Et il va très mal supporter cette tension et cette guerre avec l'Allemagne.
C'est ça. D'abord, il a un gros prisme vers la germanophilie. Il lit Nietzsche et on pense même qu'il n'a pas attendu 1892, les premières traductions de La naissance de la tragédie, pour lire Nietzsche. Je pense qu'il a dû le lire aussi en allemand, parce que dans sa bibliothèque d'alors, on a retrouvé des livres en allemand sur Nietzsche. Lui, dans la bonne tradition du pacifisme utopique, c'est l'entente de tous les peuples. Et 14 a dû être un démenti cinglant et il a été démoli par le conflit, la boucherie. En gros, pour les Français, ça a été le conflit franco-allemand, bien qu'il ait été mondial. Et ça, je pense qu'il n'a pas réussi à surmonter ça. Il lui a fallu 2 ans. Et
il mourra d'ailleurs en 1944, lors du 44. Deuxième conflit. Donc les deux guerres.
Une journée avant l'ébarquement.
Les deux guerres ont un peu cerné son œuvre d'une certaine manière. En tout cas, l'ont fait basculer à chaque fois. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans cette peinture du XXe siècle, justement, cette rupture noire pendant la période de la guerre? Elle est très nette chez Roussel.
Elle est très nette. On peut penser aussi à, je pensais à Picasso. C'est vrai que on parlait de la Grèce des années 20, mais il y a un retour à l'ordre. On parle souvent avec Mathias Chivot du retour à l'ordre, un peu de Roussel. Donc en fait, il est un peu dans la même perspective que certains artistes de l'époque, de plus en plus noir. Lui, voilà, il meurt en 44.
En 44. Oui.
Et son ami intime, Vuillard, venait mourir en 40 à La Baule, fuyant aussi les combats. Et donc c'est un peu une génération qui s'achève. Bonnard meurt en 47, donc toute cette génération-là meurt, Boris Denis meurt en 43, donc dans les années 40, c'est un peu l'hécatombe de cette génération-là.
C'est vraiment l'extinction.
Donc c'est la fin d'un cycle.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Pour voir la suite, il faut se rendre à Giverny pour aller voir l'exposition Pierre-Xavier Roussel, Jardin privé, Jardin rêvé, qui sera là jusqu'au 11 novembre prochain au Musée des Impressionnismes.
On parle en feu de bain.
Flavien Berger, Mehdi la nuit, extrait de l'album Contretemps, sorti en 2018. Flavien Berger sera en concert le 24 août au festival Check-in Party à Guéret, le 30 au festival Francomania à Bulle en Suisse et le 15 septembre à Echo, le 27 à Besançon, ce sera le 27 septembre. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'auteur et comédienne Kelly Rivière. C'est l'histoire d'un grand-père mystérieusement disparu, An Irish Story, un secret porté par tous, recouvert de nombreuses couches, enfoui dans la mer froide d'Irlande. Une énigme qui a buté contre les rochers des côtes anglaises et françaises avant de remonter à la surface et à qui le théâtre de Kelly Rivière offre une seconde vie. Kelly Rivière est aujourd'hui parmi nous, elle est l'invitée du portrait de la Grande Table d'été. Kelly Rivière, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle souvent de littérature autobiographique. Là, c'est du théâtre autobiographique. Ça a été le matériau premier de cette pièce, An Irish Story.
C'est vrai que autobiographique, puisque c'est mon histoire. Enfin, bon, c'est surtout l'histoire de ma mère, l'histoire de son père. Et j'ai tenté de le retrouver dans la vraie vie, j'ai mené une enquête on va dire depuis l'âge de 25 ans.
Alors, quel a été l'élément déclencheur de cette enquête ?
Alors, je le raconte parfois, c'est-à-dire qu'enfant, je voyais les traces que ça laissait chez ma mère, cette disparition, cette absence de père. Voilà. Et puis, quand on est enfant, on s'occupe pas de son passé ou du passé de ses parents. Adolescent, de nouveau, je voyais comment ça l'avait heurté, ce père qu'elle connaissait très peu, qui était parti, dont on savait pas grand chose. Mais pareil, adolescente, on est occupé par autre chose. Donc, moi, c'était un peu les études, un peu les garçons, un peu tout ça. Et ensuite, jeune adulte, c'est revenu. Et là, j'ai commencé à faire des premières recherches, alors avec ce qu'on peut, quoi, c'est-à-dire en interrogeant la famille, en interrogeant les membres de la famille. Bon, et puis ensuite, le temps passe, je m'occupais de ma vie de jeune adulte, et je pense que c'est à l'arrivée de mon deuxième enfant que là, il y a eu quelque chose, parce que la sage-femme qui m'a accouchée s'appelait Molly McBride.
Mais elle n'était pas irlandaise.
Elle était d'origine irlandaise,
lointaine,
ici à Paris.
Une américaine.
Voilà. Et du coup, je sais pas, ça, j'ai écrit dans mon carnet, c'est un signe, il faut que j'écrive cette histoire. Et après, je me suis vraiment lancée dedans. Et ne l'ayant pas retrouvée dans la vraie vie avec toute l'enquête que j'avais faite et tout ça, je me suis dit, le théâtre, ça va me permettre de le faire revivre.
Alors, Kelly Rivière, c'est ce que l'on voit dans ce spectacle, l'idée que, selon laquelle la fiction va pouvoir se glisser dans cet interstice de non-dit et va ouvrir finalement le champ de tous les possibles de cette vie qu'on ne connaît pas puisqu'il y a eu disparition. Ouais. Alors, on peut tout imaginer.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que je trouve que c'est romanesque, une disparition. Quand on ne sait pas grand-chose et qu'il y a plein de trous comme ça, on peut imaginer plein de choses. Donc, moi, ça, en tout cas, ça ouvrait mon imaginaire. Et le théâtre, c'est l'endroit où on peut tout faire, tout inventer, mais la littérature aussi. Ça aurait pu être un livre, ça aurait pu être autre chose, mais comme c'est le théâtre mon médium, c'est passé par là.
Alors vous, votre théâtre familial en plus, c'est un théâtre bilingue.
Oui.
Alors là, on peut peut-être raconter ce qui se passe sur scène. Vous incarnez tous les personnages qui sont une vingtaine à peu près.
Oui, 25, je crois.
Et c'est en français et en anglais, et n'importe qui peut tout comprendre. Alors comment est-ce que vous avez conçu cette histoire dans les sons, Kelly Rivière, des deux langues, et en même temps qu'il soit lisible pour tous ceux qui ne parlent pas anglais ?
Alors ça s'est fait, une grande partie de ce spectacle est quand même sortie de mon inconscient, je pense. Ça s'est fait totalement de manière assez inconsciente, mais je pense qu'ayant grandi entre un père français et une mère anglaise,
Anglaise d'origine irlandaise ?
Anglaise d'origine irlandaise, voilà, parce que née en Angleterre, mais de parents irlandais. J'ai toujours grandi entre deux langues. J'ai été dans une école bilingue toute petite jusqu'au primaire, et puis ensuite j'ai fait un petit peu un collège international. Donc j'ai toujours eu comme ça les deux langues dans l'oreille, et quand forcément j'ai voulu parler de cette histoire, l'anglais au plateau est arrivé. Quand j'improvisais, l'anglais sortait. Donc il faut savoir qu'au début j'avais écrit une partie du spectacle seule dans mon coin, des bouts de scène comme ça, et ensuite j'ai été accompagnée par quatre personnes quatre collaborateurs artistiques, quatre regards extérieurs, Suzanne Marot, Jalil Barcillon, David Jungmann et Sarah Siré, qui m'ont regardé improviser et qui m'ont aidé à construire la dramaturgie du spectacle et l'histoire, quoi, construire l'histoire. Et du coup, eux me disaient aussi, peut-être là il y a trop d'anglais, peut-être là faudrait que tu traduises pour qu'on comprenne cette information-là. Et petit à petit aussi, au fil des représentations que j'ai faites, des étapes de travail que j'ai faites devant le public et tout ça, on me disait...
Vous avez ajusté, voilà, le dosage d'anglais et de français.
Voilà. Et au départ, il y en avait plus que ce qu'il y a là.
Et en même temps, c'est
compréhensible.
C'est aussi ce rapport-là qui permet aux spectateurs de sortir un peu de la compréhension pure des mots, ouais, pour rentrer dans ce jeu d'imitation. Alors, on va écouter un petit extrait qui concerne notamment votre mère dans le spectacle. Votre mère, irlandaise d'origine, née de parents irlandais exilés à Londres.
Une fois, j'ai demandé à ma mère comment elle avait rencontré mon père. Une fois. Je devais avoir 8 ans. Nous habitions à Londres. Nous venions d'avoir un HLM qui allait en 2 pièces pour 8. Et crois-moi, c'était une chance. Parce qu'avoir un HLM en Angleterre dans les années 50, quand tu étais Irlandais, c'était pas gagné. Les Irlandais étaient accueillis par des pancartes « No blacks, no Irish, no dogs ». Oh, et nous étions traités comme des chiens. Bon, les Anglais te diront aujourd'hui que ça n'a pas existé, mais ça existait bel et bien. Ce soir-là, l'appartement était plongé dans l'obscurité parce que ma mère, Kelly, n'avait pas le penny à mettre dans le compteur électrique. Oui, l'électricité fonctionnait comme ça à l'époque, tu n'as pas connu ça, toi. Oh, je te l'ai dit 1000 fois, Kelly. J'étais l'aînée d'une fratrie de 6. Bon, déjà, c'est pas facile d'être l'aînée tout court, mais de fratrie de 6. Mes frères et sœurs jouaient dans la cour ce soir-là. Mon père, je ne sais pas où il était, il devait être au pub ou whatever. La petite dernière dormait dans la cuisine, enfin, ce qu'on pouvait appeler une cuisine. Et ma mère était en train de couper des oignons, Kelly. Des oignons, parce que ce soir-là, nous n'avions que ça à manger. Oui, il est arrivé des soirs comme cela. Mais tu n'as pas connu ça, toi. Ce que c'est que d'aller au lit et de ne pas réussir à t'endormir tellement tu as faim.
Alors, vous imitez chacun des accents, chacune des voix, et même à l'intérieur de l'Irlande, chacun des accents en fonction des régions aussi que vous traversez, puisqu'il s'agit de la région de Limerick, oui, du comté de Limerick. Oui. Là, c'est la mère née en Angleterre, mais qui a porté avec elle les traces de cet exil.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que je trouve ça toujours émouvant qu'une personne... Ma mère, maintenant, a atteint un âge où ça fait plus longtemps qu'elle vit en France qu'elle n'a vécu en Angleterre. Elle n'a jamais donc vécu en Irlande, hein, toujours vécu en Angleterre, qu'elle a quitté à l'âge de 20 ans, une vingtaine, dans le début de sa vingtaine. Et du coup, aujourd'hui, ça fait plus longtemps qu'elle habite en France qu'elle n'a habité en Angleterre. Et pourtant, elle garde des traces de cet accent. Et quand les gens lui parlent, au bout de 5, 10, une demi-heure, lui disent... Vous avez un accent, non? Oui. Et donc, elle raconte, bah oui, je suis d'origine britannique.
Alors, et... cet accent anglais, mais de deux parents irlandais partis adolescents. Ouais. Alors, on ne va pas raconter ce qui se passe, parce que c'est la fin de l'histoire. Mais cette histoire irlandaise, c'est aussi celle de du conflit anglo-irlandais, oui, des discriminations qui en restent, oui, dans les années 50.
Oui, puisque quand il y a eu... Bon, les Irlandais sont des... L'Irlande est une terre d'immigration. C'était souvent un peuple qui est parti, puisqu'ils ont traversé des grandes tragédies, la famine, la grande famine, et puis après le manque de travail, et puis, oui, ce que moi je dis, la colonisation des Anglais en Irlande du Sud. Et donc c'est un peuple qui a eu l'habitude de partir, et notamment dans les années 50, après la guerre, on les a massivement fait venir en Angleterre, mais
pour reconstruire l'Angleterre.
Voilà.
C'est une histoire que vous racontez à travers votre théâtre familial, puisque, oui, votre histoire familiale, même s'il y a des raisons autres qui sont dues à cette histoire-là, croisent les grands événements d'Irlande. Alors, oui, vous évoquez la grande famine, alors ça, a priori, elle a dû toucher peut-être la famille, mais ouais, lointainement. Mais le XXe siècle,
oui. Bah, cette immigration dans les années 50 où on les fait venir pour exécuter des travaux de reconstruction qui sont donc des travaux difficiles. Et après, bah, ils arrivaient et oui, ils portaient les clichés, enfin les Anglais portaient sur eux un regard discriminatoire.
Alors le racisme, no Irish, no blacks, no dogs.
No dogs, voilà. Alors est-ce que ça existait ou pas, certains...
Moi, c'est l'idée des pancartes, hein, des panneaux qui, voilà, diraient à l'entrée des pubs.
À l'entrée des pubs ou pour louer un appartement quand on apprenait qu'ils étaient irlandais. Mais qu'on a connu en France avec les Italiens, que des tas de pays ont connu, voilà, à travers le monde. Et qu'on oublie après parce que... Et encore, je me dis, ils partaient... parlaient la même langue, l'anglais et l'anglais, l'anglais en Irlande, l'anglais en Angleterre, c'est la même langue. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand on arrive et qu'on parle pas du tout la langue d'un pays? Ça me faisait penser à ça aussi, quoi. J'avais envie de, en tout cas, à travers l'histoire familiale, j'avais envie qu'il y ait en toile de fond, bien sûr, la grande histoire, parce que je crois qu'on est toujours l'un et l'autre se répondent.
Alors, dans cette histoire-là, ils avaient la même langue, mais ils n'avaient pas le même accent. Ouais. Vous avez fait une enquête sur les chemins de ce grand-père, sur les traces de ce grand-père disparu. Et vous-même, vous avez découvert cette Irlande-là? Vous la connaissiez?
Et non, je ne la connaissais pas. Je connaissais un petit peu l'Irlande du Nord, mais j'étais jamais allée dans cette Irlande-là. Donc, j'ai emmené ma mère en 2006. Je lui ai dit, allez, on va à Limerick et puis on essaie de voir si quelqu'un sait quelque chose. Et on est partis toutes les deux. Et c'est ce voyage que je raconte à un moment donné dans l'histoire.
Alors, on comprend de quoi est faite la fiction, puisque l'Irlande que vous découvrez, c'est la terre réelle, qui était une terre déjà imaginaire pour votre mère, qui l'avait connue qu'à travers le discours de ses parents.
C'est ça. Alors, après, elle était retournée de temps en temps avec sa propre mère en Irlande pour l'emmener un peu dans sa contrée natale. Elle emmenait sa mère de temps en temps. Donc elle ne découvrait pas l'Irlande, ma mère. Mais moi, je le découvre. Et c'est vrai que mon imaginaire avait fonctionné à plein régime jusque-là. Donc quand je suis arrivée, c'était encore au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est beau, c'est un pays magnifique. Et c'est petit, on y circule rapidement. Donc on a pu faire, en 2 semaines, on a pu faire une bonne partie du Sud. Et c'est un voyage assez fondateur parce que il a ouvert des choses.
Alors vous racontez sur scène les choses de manière très corporelle, Kelly ouais. Rivière. C'est votre histoire aussi liée à la danse ouais. que vous racontez dans le spectacle. Et donc tout passe par le corps et par la voix.
Ouais, c'est
un peu à l'énergie.
À l'énergie, ouais, ça c'est vrai que c'est de là où je viens, de la danse, depuis que je suis toute petite. C'était ça que je voulais faire, même au départ, je voulais être danseuse. Et puis, bon, on m'a dit que physiquement, j'étais trop trapue, trop petite, alors je pouvais pas faire de la danse classique. Et ensuite, j'ai fait de la danse contemporaine. Et puis, bon, les choses se décident très tôt en danse. Les carrières sont, on est très jeune quand on décide de partir dans ces carrières-là. Ça n'a pas été possible. Et ça a été une grande douleur pour moi. Et du coup, j'ai laissé tomber après. Et quand j'ai pris le théâtre, quand j'ai commencé le théâtre, quand même, on me renvoyait le fait que j'avais un corps de danseuse, quoi, parce que j'abordais les choses de manière physique. Et quand j'ai écrit ce spectacle, forcément, tout de suite, je me suis mise dans la peau de tous ces personnages. Et puis, imiter, j'ai toujours un peu fait ça. Donc, voilà, c'est comme ça que ça...
Alors ça fonctionne un peu comme des voix intérieures, hein, c'est-à-dire ouais, qu'on imagine les voix intériorisées par la petite fille
ouais.
qui recrache des accents.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je suis un peu schizophrène là sur le plateau. J'incarne toutes ces 25. Mais d'ailleurs, le public parfois vient me voir et me dit c'est ça qui les touche aussi, c'est de voir une seule personne incarner tous ces personnes-là à la fin. C'est comme si je suis un peu tout ça. Je suis un peu ma mère, un peu mon père, un peu mon frère, un peu cette grande tante éloignée, un peu cette grand-mère. Je les traverse et ils me traversent. Voilà.
À travers aussi cet humour irlandais qui est parfois un peu méconnu.
Michel, it's me. À l'époque, Michel ne reconnaît que deux sons, son prénom et cup of tea. Michel, would you like a cup of tea? Cup of tea, Michel, yes, all right, then another cup of tea for Michel. Du coup, Michel, il se retrouve à boire cup of tea sur cup of tea, il est sous perfusion de cup of tea, il n'en peut plus des cup of tea. Il y a un autre truc qu'il ne comprend pas, c'est l'heure à laquelle on mange là-bas. Would you like a snack, Michel? A sandwich? Ah, non, thank you, because then after plus faim for the dinner tonight. Non, mais Michel, c'est ça le repas, c'est le sandwich. Hein? Mais il est 17h. A sandwich with a cup of tea? It goes well ensemble. Kathleen, c'est pareil. Quand elle arrive dans le midi de la France, elle ne comprend rien. Elle a l'impression qu'on parle une autre langue. Déjà, elle a l'impression que tout le monde s'engueule en permanence. Oh! Adieu Harry! Adieu Michel. Satan m'a dit adieu à ton père. Il ne veut plus le voir. Jamais, jamais. Non, mais Kathleen, ici, adieu, c'est pour dire bonjour. Oh, couillon! Oh non, Michel, il l'appelait couillon, là. Je pense que cet homme est fâché contre ton père. Mais non, couillon, ici, c'est un terme affectueux. Elle ne comprend pas non plus la durée des repas. On se met à table à midi, à 17h, on y est toujours. Je pense que c'est bon, là, Michel. Il est 17h, on peut peut-être envisager de partir de chez ta mère, non? Qu'est-ce qu'elle dit, petite anglaise? Faut sortir de table. Eh, mais c'est 17h. Oh, mais c'est l'heure de l'apéro! Oh non, Michel. Je ne vais pas tenir ici. C'est une terre hostile pour moi.
La pluie de Londres me manque.
Alors on entend justement ce passage d'un personnage à l'autre et l'humour il vient aussi du recul et du changement de point de vue permanent. Parce que finalement la française raconte l'Irlande et l'Angleterre, l'irlandaise raconte la France.
Ouais, c'est... Je sais pas quoi dire sur ce passage qui est un peu le tube, un des tubes du spectacle. Non, mais c'est, ça, c'est des anecdotes réelles que mes parents me racontaient, que j'observais aussi sans doute enfant. Mais par exemple, cette chose d'être à table des heures, ma mère vraiment, elle dit quand elle est arrivée en France, elle comprenait pas. Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on a beaucoup moins cette culture de la table. En tout cas, dans ma famille, par exemple, en Angleterre, ça va très vite, quoi. Souvent, c'est un buffet, on va se servir et puis en 10 minutes, c'est fini. Et quand elle est arrivée en France, et surtout dans le midi de la France, elle comprenait pas qu'à 3 heures plus tard, elle laissait le café, c'est le truc. Donc, et moi, ça me faisait rire. Et puis aussi ce rapport à l'humour, c'est-à-dire que c'est vrai que l'humour, c'est une porte d'entrée d'une culture. Comprendre l'humour d'une culture, c'est déjà énorme et ça prend du temps. Et donc, au début, elle était un peu parano, quoi. Quand les gens riaient, ma mère, elle avait l'impression qu'on riait d'elle, elle comprenait pas tout. Donc, voilà. Et après, l'humour, c'est mon prisme. Dès le départ, quand je me suis dit que j'allais raconter cette histoire, j'avais très peur d'une part qu'il y ait un peu psychanalyse au plateau, parce que on a tous des histoires familiales rocambolesques, tragiques, voire très très tragiques des fois. Ça en fait pas forcément une bonne pièce, ou un bon livre, ou un bon récit. Et donc, je trouve que l'humour, c'est toujours une manière décalé de raconter les choses et qui fait passer plein de...
Alors l'humour, il arrive de manière très différente selon si on est en France ou en Irlande, parce que lorsqu'on découvre par exemple les tantes irlandaises, c'est cette espèce de filtre du non-dit et cette grande pudeur ou cette manière de banaliser des choses graves qui fait rire les spectateurs.
Il y a deux tantes, il y en a une qui est plus émotive et l'autre effectivement...
Nora
qui, alors Nora est très émotive et Bridget va être effectivement... Oui, parce que je trouve que les Irlandais ont cet humour-là, ils ont ce fatalisme un peu aussi des fois. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ils faisaient des familles très nombreuses. Donc quand nous on arrive et qu'on dit « qu'est-ce qui est devenu Peter ?» Il est issu d'une famille de 13 enfants et Bridget, elle va avoir une réaction qui va faire rire parce que...
Elle va dire que statistiquement,
voilà, elle va dire
1 sur 13...
Ouais, sur 1 sur 13 qui disparaît, bah oui, il y en a un qui partait aux États-Unis, il y en a un qui mourait jeune, il y en a un qui habite en bas de la rue, il y en a une comme moi qui reste ici avec sa sœur à côté, puis one disappeared, and elle dit statistics. Bon, ça, là, c'est là où la fiction apparaît, c'est-à-dire elle l'a pas vraiment dit comme ça, mais mon souvenir de cette scène-là me l'a fait ressentir comme ça, et après, moi... En tant que comédienne et en tant qu'auteur du spectacle, ben c'est comme ça que c'est ressorti.
Quand vous avez travaillé ce décalage entre l'histoire réelle et l'histoire que vous décidez d'apporter au théâtre, alors modification des noms, modification aussi de certains aspects complets de l'histoire aussi, puisqu'il faut que ça devienne de la fiction. Kelly Rivière, comment est-ce que vous avez travaillé ce rapport aussi au théâtre? Est-ce que vous avez été empreinte des auteurs anglo-saxons, de littérature anglo-saxonne, de théâtre anglo-saxon, vous évoquez Beckett à un moment donné.
Oui,
mais comme un parmi d'autres. Ouais.
Alors ça, c'est difficile. Je dirais que c'est difficile à comptabiliser entre guillemets. C'est-à-dire que je ne suis pas toute jeune, donc ce spectacle est le fruit d'un long travail. À la fois, c'est-à-dire que en travail effectif, je l'ai réalisé de manière assez rapide. Il est sorti assez rapidement. Mais il mature, enfin je sais pas si on dit ça, il mûrit depuis très longtemps. Et comme par ailleurs je suis aussi traductrice de théâtre contemporain britannique, je pense que d'avoir traversé toutes ces écritures-là, soit en tant que lectrice, soit en tant que traductrice, a bien sûr influencé ensuite mon travail d'écriture. Dire après quels auteurs en particulier m'ont inspiré, je les cite dans le dossier, c'est pas forcément des auteurs de théâtre, par exemple... Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est Le Voile Noir d'Annie Dupéret, où elle raconte la disparition de ses parents. Ensuite, ça a été aussi des documentaires, notamment un documentaire de Mariana Otero qui s'appelle Histoire d'un secret, qui est sur un secret de famille aussi.
Alors on en a choisi un extrait, si vous voulez l'écouter, comme ça vous pourrez le commenter.
Ça m'arrivait de penser qu'elle n'était pas morte.
Moi aussi.
Ouais.
Qu'elle était partie, en fait.
Ouais.
Alors, je regardais des fois des femmes dans le métro ou dans le bus.
C'est vrai?
Oui,
et moi aussi.
Ah bon? Je me disais, ah, c'est elle. Mais en fait, je peux pas lui dire que c'est elle. Et en fait, ils ont divorcé.
Et moi aussi.
Ah bon?
Tu peux? Oui, je me racontais des histoires. Enfin,
Mais moi, plus tard, vers... plutôt vers 20 ans, tu vois. Vers,
oui, c'est ça, ouais.
De dos, je me disais, ben voilà, c'est elle, et puis...
puis elle ne peut pas lui parler.
Oui, et puis bon, de toute façon, elle est partie, dire. Voilà. Et puis...
Mais en fait, j'aimerais bien aller lui dire, vous savez, je suis votre fille, et voilà, et je sais que vous êtes partie, mais...
Ah oui. Moi aussi, ouais, c'est aussi. Drôle.
On va peut-être remettre dans le contexte. Hein,
c'est sa sœur qui parle.
Voilà, ouais. De la mère morte.
Ouais.
Et les histoires qu'elle se raconte, jeune adulte. Comme, bon, alors, évidemment, les raisons psychanalytiques du secret. Mais il y a aussi cet imaginaire que développe l'histoire qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne leur a pas expliqué ce qui s'était vraiment passé.
Ouais, ouais, c'est ouais, formidable que vous ayez choisi cet extrait. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais au tout début de la création de ce spectacle, c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué. Oui, bah voilà, comme quoi. Et puis ce qui est beau là, c'est qu'elle découvre que toutes les deux avaient le même rêve, quoi, en fait, qu'elles imaginaient l'avoir, alors que. Donc elles se rendent compte de ça, ouais, c'est. Oui, ben voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on fait avec une disparition? Parce qu'une disparition, elle laisse pas grand-chose et. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces trous et une disparition aussi. Enfin, on peut. C'est comme si la personne était morte, mais on a encore l'espoir qu'elle le soit peut-être pas.
Alors, il y a beaucoup de folie autour de ça, d'ailleurs, dans votre spectacle. D'autant plus que, comme il s'agit quand même d'une histoire irlandaise, il y a l'idée de l'insularité et peut-être la mer, peut-être il serait tombé, peut-être il serait mort, peut-être il est parti en mer, peut-être qu'il a traversé la mer.
Ouais, je lui invente en tout cas parce que c'est vrai que j'avais aussi écouté beaucoup les récits de. Il y avait un autre documentaire qui s'appelle Thatcheré, l'histoire d'un. Je sais plus, l'histoire d'un. Qui a été diffusée sur France Culture d'ailleurs, et elle recherche son grand-père, et en fait on se rend compte que c'était quelqu'un, un homme politique important et tout ça. Souvent, derrière, il y avait une figure héroïque, je trouvais. Alors moi, mon grand-père, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas grand-chose, en fait. C'était pas un... C'est pas quelqu'un qui a marqué l'histoire ou qui a marqué... Et du coup, j'avais envie de lui inventer, comme j'avais envie de le réhabiliter, puisqu'on n'en parlait plus dans la famille, que c'était un tabou... pour des raisons que je ne connaissais pas, j'avais envie de le réhabiliter un petit peu. Donc je lui invente des vies un petit peu héroïques. Ouais, je me dis, il était gardien de phare, il était englouti par la vague. Ou...
Ça devient même un sujet de drague, hein, puisque vous utilisez ce grand-père, avec ce passé malléable, puisqu'on ne le connaît pas, adolescente, en tout cas.
Pour appâter les garçons.
Donc voilà. Si on parle à un surfeur, il était gardien de phare, il a été englouti par une vague.
Si on parle à un Palestinien réfugié, je dis qu'il était chef de l'IRA et que voilà, il a disparu dans le combat. Si je parle à un théâtreux, je maintiens le mystère et je dis qu'il est parti acheter des cigarettes et qu'il n'est jamais revenu. Ce qui est un peu la légende qui se transmet dans la famille. On dit qu'un jour il est parti acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu.
Alors il y a aussi ce passage par la documentation. Il y a une enquête. Et l'enquête théâtrale, ça c'est un objet un peu original, Kelly Rivière, celle de retracer finalement les étapes de la recherche réelle qui passe par les archives, les documentations. Et ce grand-père n'apparaît nulle part.
Non. Et toujours pas, puisque on continue l'enquête. Mais c'est difficile, en fait, de retrouver quelqu'un. C'est du temps, de l'énergie, de l'argent même. C'est-à-dire qu'il faut voyager. Surtout que là, on est sur trois continents. Enfin, on est sur trois pays différents, pardon. Non, il n'apparaît pas. Il apparaît à la naissance. On a une trace de sa naissance en Irlande. Mais ensuite...
Et de son mariage.
Et de son mariage.
Donc ça, c'est la vie administrative qui s'insère aussi comme un motif théâtral. Et finalement, selon l'endroit où vous cherchez, les facettes de la personnalité ressortent. Alors, le frère fictionnel du théâtre devient très irlandais en Angleterre.
Exactement. Il devient très politique, surtout. Tout d'un coup, aux Archives nationales, le fait qu'on ne retrouve pas ce grand-père, dit « mais attendez, ça y est, le conflit anglo-irlandais, il n'a pas été résolu, en fait. » Et à travers lui...
Le conflit de l'Ulster.
Voilà, je lui fais porter une parole politique, en fait.
Alors la parole politique, elle est un peu tout le long. On retrouve les grandes paroles, en tout cas les grandes figures de l'histoire des conflits irlandais, que ce soit Bobby Sands, que ce soit les batailles contre l'hygiène. Ouais. Toute cette histoire-là, elle est travaillée dans toute la pièce.
Bah oui, ça m'intéressait de parler de ça, parce que c'est une histoire qui est encore très récente. Et que peut-être on en entend parler là avec le Brexit, elle ressort un petit peu. Mais Bobby Sands, voilà, c'est les années 80, c'est hier, quoi. et que qu'un pays était, enfin, je veux dire, les tanks étaient présents en Irlande du Nord il y a encore peu de temps. Donc on a du mal à s'imaginer ça, je trouve, se dire que c'est un pays qui a vécu une guerre civile dans ses rues il y a encore très peu de temps. Et ça, je pense que ça marque, forcément, ça marque les individus et ça marque ce qu'ils deviennent et quel rapport ils ont aux Anglais, entre eux, enfin voilà.
Donc, alors, ce qui fonctionne assez bien dans ce fonctionnement théâtral, c'est ce changement de narrateur permanent, très ouais. habile, et finalement avec ce personnage de la mère, qui est une mère peu commode quand même,
ouais.
et qui et que vous pouvez justement instaurer comme une sorte de personnage grognon récurrent.
Ouais, bah ça permet, c'est les personnages qui permettent de faire dire plein de choses, c'est-à-dire que ma mère, elle est
caustique. Elle lit que des biographies de dictateurs.
Oui, elle est passionnée. Pour quelqu'un qui, justement, a manqué de figure paternelle, il y a une sorte de... dans la pièce, hein, parce que si elle m'écoute, elle dirait « Je ne suis pas comme ça, Kelly, qu'est-ce que tu me fais dire ?» Mais ayant manqué d'une figure paternelle forte, elle est un petit peu fascinée, effectivement, par les grands dictateurs. Et en même temps, c'est fascinant, les grands dictateurs, c'est fascinant. Et puis, c'est les personnages, oui, grognons, comme vous dites, c'est très juste, et qui osent dire plein de choses, qui osent dire ce qui ne se dit pas d'habitude, ce qui n'est pas...
Avec une certaine violence verbale, très drôle.
Très drôle, et donc voilà, ça permet de la drôlerie, et les gens aiment beaucoup ce personnage en général.
Merci, Kelly Rivière, d'être venue aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre spectacle, An Irish Story, qui sera à partir du 1er septembre jusqu'au 30 décembre au Théâtre de Belleville à Paris. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Le Joli, Lou Que Vous Villiez et Julien Rosa. À la réalisation, Milena Aelig, à la technique, Jacques Hubert.